France Culture.
Les nuits de France Culture.
Romancier, critique, poète, essayiste, dont le nom est associé aux revues Tel Quel et L'Infini, Marcelin Plainet était en 1993 l'invité d'Alain Weinstein dans Du jour au lendemain pour parler de l'œuvre de Jean Genet, alors que paraissait la célèbre biographie de l'auteur de Notre-Dame des Fleurs, signée par Edmund White. 7 ans après sa mort, avait-on mesuré l'importance de l'écrivain Jean Genet ? Manifestement non, selon Marcelin Plainet, qui, dans cette émission, avec passion, s'appliquait à remettre Genet à la place qui lui revenait, selon lui, dans la littérature de la seconde moitié du XXe siècle, à savoir la place la plus élevée. Selon Marcelin Plainet, lisait-on Genet comme on devait le lire ? Le nouveau roman aurait-il fait de l'ombre à Jean Genet ? Qu'est-ce au juste que l'œuvre de Jean Genet ? Quelle en est l'essence ? Cela, nous allons l'entendre maintenant en suivant, à la recherche de Jean Genet, Marcelin Plainet dans sa bibliothèque. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Marcelin Plainet, première diffusion le 2 octobre 1993 sur France Culture.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. J'ai écrit mes livres pour le goût des mots, pour le goût des virgules, même de la ponctuation, par goût de la phrase. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Marcelin Plainet. On parle beaucoup de Jean Genet ces temps-ci, Marcelin Plainet, principalement à cause ou grâce à la grande biographie d'Edmund White, 700 pages de référence que les critiques ont abondamment commentées. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on le lit lui-même vraiment ?
Eh bien, il y a un problème, c'est peu dire. En tous les cas, il y a un problème, en effet, de lecture de Genet depuis, à mon avis, très très longtemps. Presque, je dirais, depuis 1948. Un peu après, tout de même. Mais le problème, c'est que l'homme de théâtre, ou les pièces de Genet, ont, à mon avis, oblitéré les romans. Et j'en ai fait l'expérience, moi-même, très 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 jeune. L'un des premiers textes critiques que j'ai publié, en 1961, dans une revue qui se faisait à Aix-en-Provence et qui s'appelait L'Arc, à laquelle je collaborais alors, assez étroitement, est un texte, en effet, sur Genet, sur les paravents qui venaient d'être publiés chez Barbeza.
À l'Arbalète.
L'année suivante, comme vous le savez, je deviens secrétaire de rédaction de la revue Tel Quel et je fréquente les gens qui sont autour de Tel Quel. Et ce qui se passe dans ces années 60, c'est que tout le monde est très très impressionné par ce qu'on suppose être ou ce qu'on dit être les innovations formelles du nouveau roman. Alors, le nouveau roman, pour moi, ça n'a pas marché du tout, dès le départ. Et je pense que ça aurait été considérablement relativisé si, en effet, à l'époque, on avait lu les romans de Genet. Parce que les romans de Genet produisent dans l'histoire du roman une révolution formelle et une aventure formelle, une aventure de construction déjà. Et c'est ce sur quoi j'étais très sensible à l'époque, dans la mesure où j'avais sans doute, comme beaucoup de gens, une volonté de relativiser la fiction propre à Genet, la fiction homosexuelle propre à Genet. Et ça me permettait de lire, en effet, de lire les romans de Genet comme je suppose il souhaitait que ces romans soient lus. C'est-à-dire, en effet, comme les romans d'un écrivain, et non pas comme des aventures perverses susceptibles de démoustiller la clientèle. Donc, j'étais lecteur des romans Genet, et j'étais très frappé par l'extraordinaire innovation que constituaient ces romans dans la forme du récit romanesque lui-même, puisque les romans de Genet sont d'abord des romans presque toujours adressés. Le premier, qui est donc Notre-Dame des Fleurs, est très explicitement adressé à vous. Tout de suite, c'est à vous. Et ils vont l'être la plupart. Il n'y a guère que Querelle de Brest qui ne sera pas très explicitement adressée, mais qui pourtant le sera. Querelle de Brest écrit à la première personne du pluriel, au nous, qui est un nous presque de majesté. À ce moment-là, Genet est en pleine. Au moment où Genet écrit Querelle de Brest, il sent qu'il est en pleine possession de ses moyens et il peut employer ce nous de majesté. Mais ce nous est également adressé à un vous. Un vous, presque constamment. Donc il y a d'abord le fait que le roman est adressé, et il y a aussi le fait que à tout moment, l'auteur intervient à l'intérieur de la fiction, qui est présentée comme une légende, et il intervient littéralement pour dire je suis en train de raconter une histoire. Ne croyez surtout pas que c'est ça à quoi que ce soit de réaliste ce que je vous raconte. C'est une histoire. C'est même une fantaisie imaginaire. Donc il y a des effets de littéralité constante qui ont été très importantes pour moi tout au départ, pour ce que j'ai pu écrire ou essayer d'écrire en poésie, et toute proportion gardée bien sûr. Il y a des effets de littéralité constante. Ceci est un roman, ceci est une phrase, ceci est une fiction. Effet de littéralité qui joue un effet de distanciation. Ce qui fait que la tradition du récit romanesque est complètement bouleversée. Alors bien sûr on a une référence ou quelques références dans l'histoire de la littérature dont Proust et Céline qui eux aussi jouent et déjouent l'aventure romanesque, mais jamais avec la radicalité qui est celle de Genet, qui est une radicalité très profonde dans l'œuvre de Genet.
Alors le nouveau roman fait de l'ombre au roman de Genet.
Écoutez, le nouveau roman n'était pas tellement était dans la mesure où il était présenté dès le départ comme une sorte de construction logique et formelle, ne gênait pas tellement au fond. Il faut bien le dire, les récits et les aventures du nouveau roman, si vous prenez les fictions du nouveau roman, c'est d'un intérêt très limité et relativement mièvre, il faut bien le dire. Tout ça entre dans de la pensée convenue, dans de la pensée conforme, traitée selon des modes plus sophistiqués. Mais le nouveau roman ne se faisait pas le héros des travestis, des pédales, des homosexuels, des voleurs et des tueurs, pas du tout. C'est très gênant tout cela, c'est très gênant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très gênant dans une société très peu prête à l'accueillir encore. Écoutez, je crois qu'on peut dire que jusque dans les années 50, Genet est interdit. On ne peut lire Genet que si on achète des éditions qui sont des éditions sans nom d'éditeur ou des éditions de luxe tirées à 400 ou 500 exemplaires. Moi, je sais que lorsque j'ai acheté Pompes funèbres, ça devait être autour de 1957-58, c'était tout à fait par hasard sur les quais, une édition qui n'avait pas de nom d'auteur et qui s'est révélée aujourd'hui être l'édition qu'avait publiée Gallimard sans nom d'éditeur. qui avait un nom d'auteur, mais pas de nom d'éditeur, sans nom d'éditeur, et qui est l'édition originale, mais qui ne valait rien. Sur les quais, ça valait absolument rien à l'époque. Ou alors, il fallait acheter les éditions de Barbezat, qui étaient des éditions assez chères et des éditions de luxe. Donc, alors que le nouveau roman s'épanouissait, Genet ne circulait que sous le manteau, quoi, comme on dit très, très précisément. Donc, Genet, en effet, a occupé les romans de Genet. Je parle des romans de Genet. Les romans de Genet, en effet, ont occupé une situation tout à fait étrange. D'être certainement les romans les plus grands, les plus importants, aussi bien au point de vue de la prose, qui est une prose, presque toujours une prose poétique, d'ailleurs, chez Genet, aussi bien au point de vue de la prose qu'au point de vue de la fiction, qu'au point de vue de la construction formelle, je crois qu'au point de vue de la pensée, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, d'ailleurs, toute la pensée de Genet est dans ses romans. Qu'au point de vue de la pensée, je crois qu'on peut considérer les romans de Genet comme l'œuvre de la seconde moitié du XXe siècle, et que vraisemblablement, rien n'arrive à la hauteur de cette œuvre dans la seconde moitié du XXe siècle. Rien n'arrive à la hauteur de pensée, de décision de la pensée et de souveraineté de la pensée. Bon, vous savez qu'il arrive à Genet cette aventure tout à fait extraordinaire de se trouver préfacé par Sartre, de se trouver préfacé par 600 pages de Sartre. Ce qui, bien entendu, pour un homme qui est un autodidacte, est un événement qui ne peut être que traumatisant, de plusieurs façons. Parce que Cet événement arrive à un moment où Genet est sûr de son écriture, il est sûr d'être le grand écrivain qu'il est. Il en est tout à fait sûr, et en même temps, il a couvert, avec ses quatre premiers romans, ou ses cinq premiers romans, il a couvert un terrain tel que dans Le Journal du Voleur, qui est un des derniers, il dit qu'il va cesser d'écrire. Il dit déjà qu'il va cesser d'écrire. Arrive cette préface chez un homme qui est très pauvre, qui vit dans la misère, qui est plus ou moins forcé de voler pour bouffer, je veux dire. Arrive cette préface qui fait brusquement du jour au lendemain de Genet l'un des écrivains les plus connus et les plus célèbres du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup d'argent. Or, Genet a besoin d'argent pour vivre, et il a envie de vivre libre, il a encore besoin de davantage d'argent pour vivre. Il va être évidemment très prudent avec cette préface qui lui apporte tellement d'argent. La prudence première, ça ne va être de ne pas la rejeter du tout au tout. Et tout simplement de ramasser les bénéfices de cette préface. Mais cette préface va être très traumatisante, parce qu'elle vient en effet, il faut bien le savoir, pour un homme qui n'est pas un philosophe de profession, mais qui est un philosophe d'expérience, si je puis dire, et d'existence même, elle vient un peu écraser sa propre pensée. En tous les cas, elle vient le tirer dans un sens qui n'est certainement pas celui de Genet. D'ailleurs, il va prendre, au fur et à mesure que le temps va assumer et assurer son œuvre, il va le prendre de plus en plus de distance avec cette préface. Donc, cette préface empêche de lire Genet, d'une certaine façon. Elle fait lire Sartre, mais elle ne fait pas lire Genet. Je crois qu'il faut lire les romans de Genet pour savoir ce qu'est Genet. Et je pense encore une fois que même la biographie n'aide pas à lire Genet. Vous savez que Genet était opposé à toute idée de absolument à toute idée de biographie.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette biographie d'Edmund White?
Écoutez, elle apporte un nombre de renseignements considérables. Et elle permet, à travers ces renseignements, de vérifier un certain nombre d'intuitions que l'on peut avoir en lisant l'œuvre de Genet. Au-delà de cela, à mon avis, elle met un peu trop Genet dans ce que je dirais quelque chose avec lequel il a toute sa vie, et jusque dans son œuvre, pris une distance très, très violente, c'est-à-dire avec le milieu homosexuel. L'œuvre de Genet n'est pas une œuvre qui vient fonder un milieu de PD ou un milieu homosexuel. Ce qui ne veut pas dire que Genet n'était pas PD, n'était pas homosexuel. L'homme qui écrivait ses livres, et pour écrire ses livres, il lui fallait aussi sans doute traverser cette expérience. Mais l'idée de communauté lui faisait absolument horreur. Et je crois qu'en effet, versant Genet dans cette communauté homosexuelle, avec des phrases du genre, dont on se demande ce qu'elles veulent dire, avec des phrases du genre comme Rimbaud, Genet était homosexuel. Mais c'est pas vrai, ça peut pas être vrai. On n'est jamais homosexuel comme quelqu'un d'autre, on n'est jamais sexuel comme quelqu'un d'autre, Dieu merci, ou alors on s'emmerderait considérablement au lit. C'est précisément parce qu'on n'est pas comme quelqu'un d'autre qu'on peut s'amuser quelque part au lit et qu'on peut en tous les cas penser ce qui se passe au lit.
Vous trouvez ça amusant, vous, ce qui se passe au lit ?
Ah, parfois, oui, c'est amusant. Parfois, oui, c'est amusant. Et c'est amusant aussi bien sous la forme de la parodie, d'ailleurs, ou sous la forme de la répétition, ou même sous la forme de l'ennui qui peut en être. C'est amusant, c'est important. Ça, c'est, il se passe beaucoup de choses, là. D'ailleurs, s'il ne se passait pas des choses, là, amusantes ou non, eh bien, mon cher Yami, nous ne serions pas en ce moment, face à face, en train de parler de Genet, parce qu'évidemment, tout ça, ça s'est passé quelque part dans un lit, ou en tous les cas entre un homme et une femme, ou en tous les cas dans une illusion sexuelle. Ce qui me frappe beaucoup dans cette affaire qui met aujourd'hui Genet à la une de tous les journaux, aussi bien avec ses romans qu'avec ses pièces de théâtre, alors que lorsqu'il était vivant, c'était beaucoup plus difficile. C'est toujours les morts qui ressuscitent de cette façon-là. Ce qui me frappe, c'est que ça ne répond pas du tout. Vous savez, j'ai rencontré quatre fois Genet. Je l'ai rencontré une fois dans un petit hôtel du 11e arrondissement, en compagnie de Philippe Solers et de Paul Thévenin. Je crois que nous étions trois ou quatre à le rencontrer. C'était dans le hall de l'hôtel et il s'agissait de lui demander un texte pour la revue qu'il a donné finalement, qui est L'étrange mot 2, le premier texte qu'il a confié à la revue. Et Genet, comme d'ailleurs bizarrement Bataille qui n'aimait pas beaucoup Genet, n'aimait pas parler de son œuvre. Il ne parlait pas de son œuvre. Il parlait de ses soucis quotidiens. Il parlait de ses soucis quotidiens. Je l'ai rencontré une seconde fois lors d'un dîner à Ris-Orangis chez Jacques Derrida. Il y avait la Solers, Christeva, Paul Thévenin, Jean Genet, Derrida, sa femme et moi. Et de la même façon, Genet ne voulait pas parler de son œuvre. Il n'aimait pas parler de son œuvre. C'était quelque chose qui, ou bien ça se suffit à soi-même, ou bien ça marche pas, ça ne va pas. Et bien évidemment, ça se suffit à soi-même.
De quoi parlait-il alors ?
Comment ?
De quoi parlait-il ?
Mais des choses. Bon, alors aussi bien des événements lors du dîner. Je pense que c'était les événements politiques. Et il était assez préoccupé par les Palestiniens à l'époque. D'ailleurs, il a participé à un des groupes théoriques de la revue que tenait la revue telle quelle. Et je l'ai rencontré une autre fois à cette occasion à propos des Palestiniens. Une histoire qui est en train de se résoudre, touchant du bois, Dieu merci. Mais il ne parlait pas de son œuvre. Les questions sur son œuvre étaient toujours déjouées ou déplacées. L'œuvre était faite, et en effet, l'œuvre parlait d'elle-même suffisamment. Ce qui est très étonnant dans les romans de Genet, si vous voulez, c'est que la fiction est constamment, et à tout moment interrompu au profit de la réflexion et de la pensée de Genet. Donc pas d'intervention supplémentaire et tout à fait inutile sur l'œuvre. Il faut lire les romans. C'est ce qu'il y a de plus intéressant et de plus passionnant à lire sur cette seconde moitié du XXe siècle et sur la société de cette seconde moitié du XXe siècle.
Alors si on met de côté la biographie d'Edmund White, sur laquelle vous semblez avoir des réserves, Marcelin Plenet, on peut lire Genet qui est dans l'actualité, à travers un volume de la collection Biblos qui réunit trois romans, Journal du voleur, Querelle de Brest et Pompe funèbre, et qui accompagne deux éditions justement de l'éditeur pionnier, L'Arbalète, d'une part la réédition du Miracle de la Rose, et d'autre part la publication d'une pièce qui était restée inédite, une pièce policière, ou une fausse pièce policière, Splendids.
Oui, je n'ai pas de réserve sur la biographie d'Edmund White. La biographie d'Edmund White est une très bonne biographie et elle est ce que sont toutes les biographies. C'est-à-dire qu'elle est déterminée, comme toute biographie, par ce que j'appelle la pensée conforme. Comment est-ce qu'on écrit la biographie d'un homme en la confrontant à la conformité des autres biographies? Donc toute biographie, que ce soit la biographie de Genet, que ce soit la biographie de Lacan, que ce soit la biographie de qui que ce soit, est toujours ordonné par la pensée conforme. En conséquence, on a un nombre considérable d'informations, mais l'œuvre se trouve forcément relativisée en telle que ça. La pensée conforme dans la biographie de Genet, c'est la pensée de l'homosexualité. Bon. Soit, pourquoi pas. Les renseignements, c'est un nid d'informations, cette biographie. Mais elle participe de ce que j'appelle l'ordre de toute biographie, c'est-à-dire la pensée conforme. Pensée conforme, pourquoi? Et comment en effet une biographie ne peut pas convenir? Une biographie ne peut pas convenir à Genet. Eh bien, je crois, c'est qu'on ne se pose pas suffisamment la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Genet. Eh bien, l'œuvre de Genet, c'est une œuvre qui traite de la société. Mais de quelle société? Elle traite de notre société. D'ailleurs, elle s'adresse presque toujours à nous. C'est à vous. C'est le vous qui est adressé et qui adresse tous les romans. La société que décrit Genet, c'est ce que on peut appeler, et quasi littéralement en ce qui concerne les romans de Genet, la société des amis du crime. La société des amis du crime, eh bien, si on y pense, et c'est littéral, on ne peut pas le penser autrement, c'est la société des voleurs, des PD et des assassins. Hein? C'est la société des traîtres, c'est la société des amis du crime. Littéralement. Mais, bien entendu, à partir du moment où on pose cela, eh bien, on pose aussi ce qu'on ne trouve pas assez souvent souligné, que bien entendu, et très vraisemblablement, Genet a lu Sade. Il a lu les 120 journées de Sodome et Gomorre. Il a lu les 120 journées de Sodome et Gomorre. Et il est, pour la deuxième moitié du XXe siècle, cet homme qui dit toute société, quelle qu'elle soit, est une société des amis du crime. La pensée de Genet est très très forte de ce point de vue. Toute société, quelle qu'elle soit, est une société des amis du crime. Par ailleurs, si on pose, ce qu'en effet on ne peut pas ne pas poser, aussi bien en ce qui concerne Notre-Dame de Fleurs, qu'en ce qui concerne le Miracle de la Rose, qu'en ce qui concerne Querelle de Brest, qu'en ce qui concerne le Journal du voleur, on ne peut pas ne pas poser que ce que décrit Genet, c'est une société des amis du crime. À partir de ce moment-là, il faut évidemment voir comment fonctionne la pensée de Genet. Elle fonctionne de deux façons, et en cela, de façon extrêmement cohérente. Elle fonctionne de deux façons. La société est une société des amis du crime. Et, bien entendu, par voie de conséquence, elle fait référence à Freud. Toute société est construite sur un crime commis en commun. Première référence à Freud. Toute société est construite sur un crime commis en commun. Deuxième référence à Freud, c'est Société des amis du crime, est en effet une société où l'homosexualité est dominante, semble dominante, occupe tout le champ, absolument tout le champ. Autre référence à Freud, la société et la culture sont construites sur le refoulement de l'homosexualité. Vous prenez ces trois références et vous avez une possibilité, en effet, d'aborder ce qu'il en est des romans de Genet. Genet écrit dans le Journal du voleur. Ce journal que j'écris n'est pas un délassement littéraire. À mesure que j'y progresse, je sens s'affermir ma volonté d'utiliser à des fins de vertu. Et avec Genet, il faut toujours retenir qu'en effet, les mots n'ont pas un seul sens. Les mots sont toujours des jeux de mots. Et bien entendu, là, il faut entendre vertu au sens classique, c'est-à-dire de courage. Hein? Je sens s'affermir ma volonté d'utiliser à des fins de vertu, c'est-à-dire à des fins de courage, mes misères d'autrefois. J'en éprouve le pouvoir. Autre déclaration de Genet, toujours dans le journal. Trop de gens, me disais-je, pensent et qui n'en ont pas le droit. Ils ne l'ont pas payé d'une entreprise telle que penser devient indispensable à notre salut. L'expérience première et essentielle de Genet, c'est celle de la société. Comment est-ce que l'expérience première et celle de Genet, c'est celle de la société? Genet est un enfant abandonné. Il est donc immédiatement confié à la société. Sa famille, c'est la société. Il a des parents adoptifs. Ensuite, il va entrer dans une colonie pénitentiaire et ensuite en prison. Il est entièrement un homme qui traverse la société et qui vit tout enfant cette expérience de la société. Il ne vit pas une expérience familiale, il vit une expérience de cette métafamille qu'est la société. Et si l'on regarde l'ensemble de son œuvre, il ne traite que de ça. Dans tous ses romans, et sans exception, Genet met en scène l'ordre social. Le sujet de ses romans, c'est la société, et l'on ne peut en dire que cela. Genet est le seul écrivain, en vérité, que l'on puisse comparer à Sade, comme je vous l'ai dit, dans la mesure où la société dont il nous parle, dont nous parle Notre-Dame des Fleurs, de Notre-Dame des Fleurs au balcon, sans exception, c'est la société des amis du crime. Notre-Dame des Fleurs, son premier livre, est un des plus beaux. Peut-être un des plus beaux avec le journal du voleur. Il faut signaler qu'on trouve tous ces livres aujourd'hui, aussi bien en livre de poche que donc dans la collection Biblio, qui est préfacée par Philippe Solers. Notre-Dame des Fleurs est dédiée à un assassin, Maurice Pilorge, qui vient d'être guillotiné. Genet n'a pas connu Maurice Pilorge. Donc, si l'on essaie de réduire Genet à la fiction qu'il met en scène, bien entendu, ça n'est plus de Genet qu'on parle. Ça n'est plus Genet qui apparaît dans ce livre. C'est le fantasme que l'on projette sur l'intrigue de Genet que l'on lit, et on ne lit plus l'œuvre de Genet. Ce qui peut permettre de bien comprendre et de prendre la mesure de l'œuvre de Genet, eh bien, c'est d'abord de convenir que le monde de Genet, la société qu'il décrit, c'est celle-là même où nous vivons. C'est la société des amis du crime. Nous vivons dans la société des amis du crime. Alors, bien entendu, nous vivons dans une société où le crime n'est pas déclaré comme tel, où le crime n'est pas promu comme tel, mais aujourd'hui, par exemple, en 1993, avec toutes les affaires qui traînent dans tous les coins, à droite comme à gauche, eh bien, on sait bien que cette société est une société des amis du crime. On sait bien que le crime sous-tend cette société.
Ou le crime paye.
En effet, le crime paye, si on veut. Le crime paye, si on veut. Il paye et en même temps, il pourrit. Il paye et en même temps, il pourrit. Dans le journal du voleur, Genet écrit à propos de cet autre aspect de la société et de cet autre aspect de la culture, hein, si Genet, comme Rimbaud, est homosexuel, à propos de cet autre aspect de la culture, qui est, comme dit Freud, constitué d'un refoulement homosexuel, et on peut en effet assumer que l'œuvre de Genet, c'est, de ce point de vue, le retour massif du refoulé. Genet écrit, dans le journal du voleur, « Je venais de me détacher d'une immonde camaraderie à quoi me conduisait mon naturel affectueux. Et j'avais l'étonnement d'en éprouver une grande force. » Autrement dit, le naturel conduit, en effet, à cette connivence sociale, qui est l'homosexualité et le refoulement de la société. La société est une société des amis du crime, une société homosexuelle. Elle est d'autant plus une société des amis du crime qu'elle ne veut rien savoir de sa culpabilité, qu'elle est dans la dénégation de sa culpabilité, et une société homosexuelle qu'elle refoule son homosexualité. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire, il y a quelques années à Solers, de façon, à mon avis, extrêmement juste à propos de Pasolini, il a dit ça à Milan, dans un colloque sur Pasolini, « Pasolini est le moins homosexuel des Italiens ». En effet, parce que l'homosexualité refoulée est beaucoup plus forte que l'homosexualité explicite, et beaucoup plus homosexuelle, en effet, beaucoup plus criminelle en tout cas.
Entrer, Marcelin Plenet, dans cette société des amis du crime.
Eh bien, cette société est constituée de criminels qui sont en quelque sorte des héros. Et elle est porté en quelque sorte par une société ou un ensemble de travestis. Le travesti, c'est Genet, joue un rôle considérable. Ce qui nous entraîne inévitablement à penser qu'en effet, pour Genet, notre société et toute notre société est une société de travestis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on découvre qu'un grand chef d'entreprise a fait une malversation? Eh bien, ça veut dire que la façade de l'entreprise est un travestissement, tout simplement, et que derrière la façade, il y a la vérité de la chose. Alors, le travesti, ça n'est pas seulement un homme travesti en femme, une femme travestie en homme, c'est, pour Genet, plus essentiellement, l'homme travesti en homme. Le faux homme travesti en homme. Mais c'est aussi, comme par exemple dans le balcon, le juge, l'évêque, le préfet de police. Derrière la façade, derrière le costume institutionnel, derrière ce qui est présenté comme réalité, il y a tout autre chose que la réalité. C'est à mon avis quelque chose de très décisif dans l'œuvre et dans la pensée de Genet, qui ne cesse de traiter de la duplicité du travestissement. Ce qu'il dit, par exemple, je crois que c'est dans Notre-Dame des Fleurs, de la duplicité du sexe des tantes. Et, par voie de conséquence, tout ce qui est travesti se révèle en effet être tante. Ce qui fait que Genet ne voudra pas l'être et qu'il va intervenir à plusieurs reprises sur ce point-là. Ou encore plus explicitement, dans Notre-Dame des Fleurs, il déclare « la vraisemblance étant le désaveu des raisons inavouables ». La vraisemblance du juge, la vraisemblance du chef d'entreprise étant le désaveu de raisons inavouables. Désavoue les raisons inavouables qui sont les siennes. Tout est construit là-dessus. Autre extraordinaire, et ça, c'est vous le citiez au départ, c'est la passion de Genet pour les mots et l'intelligence qu'il va chercher dans les mots. C'est en bon autodidacte si on veut, mais lorsqu'on est Genet, on n'est plus autodidacte. On est l'un des hommes les plus savants de la seconde moitié du XXe siècle. Il va chercher dans les mots la vérité des mots. Autre expérience extraordinaire de travestisme, la prison. Quel est le nom de la plus grande prison parisienne? Ça s'appelle La Santé. Eh bien, tout est là. Genet perçoit, en effet, dans la réalité sociale, tout ce qui fonctionne comme faux, comme duplicité et comme travesti. Et il le met en scène. À ne pas sortir de là, on ne peut pas comprendre ce que veut dire l'œuvre de Genet. La société, ceci d'abord, vivre en société, c'est vivre en prison. C'est vivre, en effet, dans cette prison où il y a tout ce que Genet décrit. La fiction de Genet n'est pas une excentricité, c'est une réalisation poétique de la société dans laquelle nous sommes.
Mais cette société ressemble beaucoup à la société italienne, à une sorte de commedia dell'arte, bref, à une société du spectacle.
C'est une commedia dell'arte qui se termine par la mort, par la guillotine. Qui vient guillotiner tout ce qui dit sa propre vérité.
Mais ça se termine toujours par la mort.
L'un des éléments qui va permettre, à mon avis, à l'œuvre de Genet, et qui rend en effet tout à fait impossible la volonté de l'assimiler à un groupe, c'est qu'en effet, Genet se vit en prison. Et se vivant en prison, comme dans cette société, eh bien, il s'y vit seul. Il écrit, dans Notre-Dame des Fleurs, « Se croire tout de bon emprisonné pour l'éternité, c'est cela se faire une vie. » De toute l'œuvre, la prison, le château, le palais sont des lieux parallèles. Duplicité. L'un est la vérité de l'autre et vice-versa. Ils se travestissent l'un l'autre. Pour une émission de radio intitulée « L'enfant criminel », Genet écrira « Je sais que la morale au nom de quoi vous poursuivez l'enfant, vous ne l'appliquez guère. » Duplicité. Et encore, nous voulons être la matière qui résiste et sans quoi il n'y aurait pas d'artiste. La solitude, la prison, la singularité de Genet fait de lui la matière proprement écrite qui résiste à la duplicité et au faux semblant. Et la façon qu'il a d'expliquer la duplicité et le faux semblant, eh bien, c'est évidemment de l'écrire.
Intéressant ce lapsus, là. Duplicité, publicité.
C'est qu'en effet, cette duplicité est une publicité. On ne cesse, en effet, de nous vendre une marchandise qui est du faux. La publicité ne cesse, en effet, de nous vendre du faux semblant, comme la télévision ne cesse, en effet, de nous vendre du faux. Nous sommes dans le faux. Comme notre société est en train de promouvoir le faux au rôle du dominant et au rôle du vrai. Pour l'écrivain Genet, dans cette duplicité sociale, dans cette société qu'il a découvert, être une société des amis du crime comme retour du refoulé, dans cette société, l'infamie ennoblit. Genet dira autrement dans Le Miracle de la Rose, en racontant un épisode arrivé à un de ses personnages, je prends la peine à mon compte et je parle. Je crois que la clé, si l'on veut, de l'œuvre de Genet est dans cette phrase. Je prends la peine à mon compte et je parle. Je prends l'ensemble de la société à mon compte et je parle. Et j'en dis la vérité. J'en dis le refoulé, j'en dis le retour du refoulé et j'en dis la comédie. Dans le journal du voleur, il écrit « Le monstre qui prit les proportions du monde et sa puissance, c'est à partir de lui que s'ordonnent les nouveaux principes. » Pour Genet, il faut s'inhumaniser pour être au diapason de ce qui se dit l'humanité. Dans Notre-Dame des Fleurs, peu d'instants où je n'ai une vision horrifiée des êtres et des événements. Vous voyez que c'est une curieuse comédie. Et encore, à cause de son français vibrant dans le pathétique, je le prie pour un animal métamorphosé en homme. Il n'y a pas de pathétique chez Genet. Mais beaucoup plus évidemment, encore et toujours dans Notre-Dame des Fleurs, m'inhumaniser est ma tendance profonde. Je m'éloigne encore des hommes. Le seul moyen d'éviter l'horreur de l'horreur, écrit Genet, c'est de s'abandonner à elle. L'œuvre se construit sur cette conscience-là et c'est sur cette pensée-là. Aujourd'hui, où l'on traite si volontiers, en effet, comme on le disait tout à l'heure, les affaires, et où la corruption très généralisée passionne le public et les médias comme une sorte de roman feuilleton, de fable merveilleuse à épisode, tout le monde rêvant, quelque part sans doute, d'être corrompu, la vigilance, l'extraordinaire vigilance de Genet se révèle être l'essence même de toute grande littérature. Philippe Solace écrit dans sa préface au volume de Biblio, « La littérature reste au plus près de la description du non-être social en train de faire semblant d'être. La vigilance de Genet, telle que, comme il l'écrit, penser devient indispensable à son salut, tient aussi au fait, à la conscience qu'il a de ce que sa pensée est le fruit d'une entreprise qui lui a coûté. Il écrit dans le journal « Une fatalité s'acharnait à corrompre mes attitudes. Soit que mon héros s'effondra, soit que moi-même j'apparaisse misérable debout. » Dans Notre-Dame des Fleurs, de Notre-Dame des Fleurs au Miracle de la Rose, à Querelle de Brest, à Pompe Funèbre, au Journal du Voleur, la liberté de l'écrivain, sa liberté de penser, se construit de la mise en évidence du jeu criminel de la réalité sociale et de la duplicité qui gère la communauté. Avec le journal du voleur, Genet devient plus explicatif encore s'il se peut. Il écrit « Cependant, si j'examinais ce que j'écris, j'y distingue aujourd'hui patiemment poursuivi une volonté de réhabilitation des êtres, des objets réputés vils. De les avoir nommés avec des mots qui d'habitude désigne la noblesse, c'était peut-être enfantin, facile, j'allais vite, j'utilisais le moyen le plus court, mais je ne l'eusse pas fait si, en moi-même, ces objets, ces sentiments, la trahison, le vol, la lâcheté, la peur, n'eussent pas appelé le qualificatif réservé d'habitude et par vous, parce qu'il s'adresse toujours à l'ensemble social, au groupe, au vous, par vous, à leur contraire. En embellissant ce que vous méprisez, voici que mon esprit, lassé de ce jeu qui consiste à nommer d'un nom prestigieux ce qui bouleversa mon cœur, refuse tout qualificatif. Les êtres et les choses, sans les confondre, il les accepte tous dans leur nudité. Puis, il refuse de les vêtir. Ainsi, écrit-il dans le journal du voleur, ainsi ne veux-je plus écrire. Je meurs à la lettre. On peut penser que, à partir du journal du voleur, se constitue, en effet, pour Genet, ce que je dirais la poétique de Genet. Ce qui donne, au-delà de la fiction et de son organisation formelle, au-delà du Genet qui se révèle être le meilleur détective du crime social. Vous savez que dans ces années 40 et dans ces années 50, le journal qui avait le plus de succès, un grand succès populaire, s'appelait Détective. Il est très souvent cité dans Genet.
Le journal qui était d'ailleurs lancé par Gallimard.
Ce qui révèle le génie profond de l'écrivain, susceptible d'affirmer « l'acte est beau s'il provoque et dans notre gorge fait surgir le chant ». C'est 10 ans après que Genet ait cessé d'écrire des romans qu'il nous livre la clé de sa poétique en ouverture de son atelier d'Alberto Giacometti. Texte dont Picasso dira que c'est le meilleur texte qu'il ait jamais lu sur la peinture. Genet écrit « On songe », écrit-il à propos de Giacometti, « on songe donc avec nostalgie à un univers où l'homme, au lieu d'agir aussi furieusement sur l'apparence visible, se serait employé à s'en défaire. Non seulement à refuser toute action sur elle, mais à se dénuder assez pour découvrir ce lieu secret en nous-mêmes, à partir de quoi eût été possible une aventure humaine toute différente. » Eh bien, je crois qu'on a, dans ces lignes qui ouvrent le texte de Genet sur Giacometti, je crois qu'on a dans ces lignes la clé de la poétique de Genet et ce qu'il faut en effet chercher dans ses romans. Ce lieu secret en nous-mêmes, à partir de quoi eût été possible une aventure humaine toute différente. Une aventure humaine qui, en effet, n'aurait peut-être pas renié, comme le fait le groupe social, des amis du crime, ce qu'il y a d'humanité dans l'homme.
Pour vous, donc, Marcelin Plenet, Genet est avant tout un romancier, et pourtant il a écrit quelques poèmes.
Oui, avant tout un romancier, il faut avant tout lire ses romans, mais ses romans sont les romans d'un très très grand poète. Mmh. Vous savez, cette distinction roman-poésie est encore une chose propre aux nouveaux romans, et notamment à M. Alain Robbe-Grillet, qui trouvait que les prétentions poétiques de Rimbaud étaient celles d'un jeune pédéraste prétentieux, que la carrière de Rimbaud était celle des prétentions d'un jeune pédéraste. La division entre roman et poésie est une chose très 19e-iste et très, très éculée, à mon avis. Là, on est en train de s'apercevoir en cette fin de 20e siècle, à mon avis, que tout ça ne recouvre que beaucoup de misère. Mais il y a en effet une prose poétique de Genet, qui est celle de ses romans, et des vers de Genet, dont les plus célèbres sont les poèmes du condamné à mort, qui est lui aussi dédié, qui est la première chose qu'il ait publiée d'ailleurs à compte d'auteur, le condamné à mort, et qui est dédié en effet à ce condamné à mort qui fut Maurice Pilorge. Il y a un chant d'amour, et il dira dans un de ses romans d'ailleurs, ce rapport sur ma vie ou ce qu'elle suggère ne sera qu'un chant d'amour. Il y a un chant d'amour et il y a un poème un peu plus compliqué, dialogué, qui s'appelle Le pêcheur du Suquet. La poésie de Genet a ceci de particulier, c'est qu'elle est en vers, mais elle n'est pas essentiellement poétique. En tous les cas, ce n'est pas une poésie d'effusion. Et je dirais que Genet, dans sa poésie, et notamment dans Le condamné à mort, dont je peux lire 3 vers, si vous voulez, qui ouvre le volume, le vent qui roule au cœur. Sur le pavé des cours, un ange qui sanglote accroché dans un arbre, la colonne d'azur qu'entortille le marbre, font ouvrir dans la nuit des portes de secours. Vous voyez que nous sommes dans l'Alexandrin, nous sommes dans le conforme de la langue classique. Moi, je dirais que la poésie de Genet s'emploie à confronter le conforme de la langue classique au conforme du crime. Et qu'en effet, à partir de là, quelque chose surgit quelque chose surgit de cette poésie qui n'est pas de l'ordre de l'effusion, qui n'est pas de l'ordre de la sentimentalité, mais qui fait apparaître dans la langue elle-même ce qu'il en est du jeu de la conformité.
Marcelin Plenet parlait de Jean Genet, dont on peut lire la plupart des titres dans la collection Folio. Mais récemment, Biblos chez Gallimard a publié Journal du voleur, Querelle de Brest et Pompes funèbres. Et puis deux titres récents aux éditions de l'Arbalète qu'on peut rappeler, Miracle de la Rose et Splendids. Du jour au lendemain, Geneviève Nguyen, Bernard Treton, Alain Weinstein, bonsoir.
C'était « Du jour au lendemain » dans la bibliothèque de Marcelin Plenet, Jean Genet. Première diffusion sur France Culture le 2 octobre 1993.